Et avant la société de consommation qui nous a rendus claustrophobes et névrosés, avant les boîtes de conserve et Saint-Nicolas à Père, comment faisait-on durer viande et poisson? En les salant. J'ai voulu vous faire partager un conte belge que j'avais lu enfant, Le Roi Lear, Mon la tragédie, plus la bouffe, mais je l'ai trouvé sur le net sur une forme légèrement différente et je préfère vous raconter celle de mes souvenirs. J'ai bien eu quelques scrupules parce que ce n'est pas exactement de la lecture et puis je me suis souvenu que c'est moi qui fais le montage et personne ne peut me censurer. Soumettez-vous mortel. Il était une fois un roi qui avait trois filles. Appelons-le Lear, au hasard. Un jour, il fait venir ses trois filles auprès de lui et leur demande comment est-ce qu'elle l'aime. Et l'aînée lui fait tout un discours sur elle l'aime autant que les yeux aiment la lumière, la cadette, elle l'aime autant que quelque chose aime l'or, enfin je sais plus, plein de compliments. Et finalement, il demande à la petite dernière, appelons-la, je sais pas moi, Cordélia, qui est aussi sa préférée, comment est-ce qu'elle l'aime et elle lui dit « Père, je t'aime comme le sel de cuisine ». Donc Lear, très très vexé, lui dit « Hors de ma vue, enfant ingrate !» et il la boute en dehors du château. Donc Cordélia, très très triste, trouve refuge dans le royaume voisin où elle devient cuisinière dans les cuisines du château. Et elle est heureuse, elle fait des bons gâteaux et le prince se retrouve à descendre souvent en cuisine pour la regarder cuisiner, parler avec elle, manger les gâteaux, voilà. Entre-temps, le roi Lear s'est bien sûr rendu compte que ses filles aînées, malgré toutes leurs déclarations d'adoration éternelle, sont quand même pas très sympas. Et dès lors qu'il leur a légué la couronne, elles l'ont plus ou moins mis au banc du château. Du coup, il est un peu déprimé. Et donc son voisin, l'autre roi, lui dit « Non, mais viens manger, j'ai une bonne cuisinière et tout, ça va te remonter le moral. » Il dit « Ouais, d'accord, pourquoi pas. » Ils se mettent à table. Et là, ils se mettent à faire des grimaces épouvantables parce que la nourriture est dégoûtante. Le roi Lear est stupéfait et le roi qui appartient au château est plutôt en colère. Il convoque donc la cuisinière responsable, Cordélia, et lui demande « Pourquoi est-ce que c'est aussi dégoûtant ?» Et là, Cordélia annonce calmement que, comme son père n'aimait pas le sel, elle a décidé de n'en mettre aucun dans la cuisine qu'elle lui préparait. Alors qu'elle l'aime comme le sel de cuisine qui donne du goût à tous les aliments. Et là, il se rend compte que c'était vraiment un gros con, et il s'excuse, et elle lui pardonne, et tout va bien. Le prince fait « En fait, moi je suis amoureux d'elle, on peut se marier ? Ouais, cool !» Voilà, donc ils se marient, et il est dit que leur amour durera très longtemps, conservé par le sel de cuisine. Pardon, j'espère que je vous ai pas fait peur, c'était Qbert de System of a Down pour continuer à cracher sur la société de consommation de merde qui boite de conservise les êtres humains. Cette proposition de Robin est étonnante dans la liste habituelle des chanteurs morts de variété française. J'ai estimé qu'il fallait sauter sur l'occasion de faire écouter un peu de métal dans cette émission. Et pour plonger plus avant dans les enfers, voici un texte de Charles Baudelaire sur une étrange confiture verte.
Voici une confiture verte, singulièrement odorante, tellement odorante qu'elle soulève une certaine répulsion, comme le ferait du reste toute odeur fine, portée à son maximum de force et pour ainsi dire de densité. Prenez-en gros comme une noix, remplissez-en une petite cuillère et vous possédez le bonheur. Le bonheur absolu, avec toutes ses ivresses, toutes ses folies de jeunesse et aussi ses béatitudes infinies. Le bonheur est là, sous la forme d'un petit morceau de confiture. Prenez-en sans crainte, on n'en meurt pas. Les organes physiques n'en reçoivent aucune atteinte grave. Peut-être votre volonté en sera-t-elle amoindrie ? Ceci est une autre affaire. Généralement, pour donner au haschich toute sa force et tout son développement, il faut le délayer dans du café noir très chaud et le prendre à jeun. Le dîner est rejeté vers 10h ou minuit. Une soupe très légère seule est permise. Une infraction à cette règle si simple produirait ou des vomissements, le dîner se querellant avec la drogue, ou l'inefficacité du haschich. Beaucoup d'ignorants ou d'imbéciles qui se conduisent ainsi accusent le haschich d'impuissance.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts.
Merci Will, extrait de vin et haschich, bien sûr. À part ça, la drogue, c'est mal. Et c'était Hubert Félix Thiéphaine, lui ses parents l'aimaient pas, plombant l'âge des confitures avec la ruelle des morts. Les yeux ont des oreilles s'applique à détruire votre enfance. Thiéphaine étant aussi le chanteur préféré de Robin, toute critique à son égard menacera la qualité des rushs. L'auteur du prochain texte n'est pas mort, lui, il est bien vivant et présent dans cette salle. Le poème « La confiture de fraise » envoyé pour la deuxième veillée poétique de l'organisation appelée « Le Cercle des poètes apparus » de l'Université Lyon 2, branche du Littérarium, a été sélectionné par Will pour être lu sur les ondes. On écoute Jérémy Angler.
Une fraise cueillie sur un arbre, une fraise dégustée par une chimère, une fraise disparue, sans mère, une fraise tombée d'un arbre. Elle s'écrase, elle s'étale, elle se mange. Par qui ? Par quoi ? Un ange. Qui l'emmène loin de nous, le palais du goût. Cette fraise flotte et pousse en l'air, ne vit, ne boit, ne se nourrit que sur terre. Évolue et n'est plus, son essence en jus. Ce jus, cette gelée, à l'aise par son goût subtil et fascinant, cette gourmandise de tout temps, la confiture de fraise.
Maréchal, nous voilà, du sépia, plein les doigts. À quoi elle pense, en s'endormant, cette jolie France, confiture bonne maman, elle pense pareil, pareil qu'hier.
Merci Jérémy. Nostalgie au vitriol de Vincent Delerme dans la virgule, du sépia plein les doigts. Parce qu'on n'avait pas encore atteint le quota de déprime propre au premier mois de l'année. Vous savez, quand vous vous rendez compte que vous tiendrez jamais vos bonnes résolutions. Allez, haut les cœurs. Le prochain texte, celui qui va délier les langues en discussion, est peut-être tragique, mais au moins il l'est avec entrain. Et c'est aussi l'instant littérature étrangère. The God of Small Things, le dieu des petits riens, est le premier et unique roman de l'auteure indienne Arundhati Roy. Les jumeaux Rahel et Esta habitent dans la ville fictive d'Ayemenem avec leur mère Amou, leur grand-mère et leur oncle Chaco, qui dirigent la compagnie familiale des confitures et aliments en bocaux, pickles, ça se traduit pas vraiment, Paradise Pickles and Preserves. La famille, déjà rongée de dysfonctionnements et frustrations, explose lorsque la fille de Chaco, Sophie, leur rend visite d'Angleterre et se noie dans la rivière, provoquant une série de catastrophes diverses et variées. L'intrigue est en fait bien plus compliquée et la narration circulaire, si bien qu'on commence avec Rahel, adulte, retournant à Ayemenem pour retrouver Esta, frappée de mutisme suite à un abus sexuel. Ouais, c'est joyeux ! Extrait du premier chapitre, VO puis VF, traduction de Claude Domanioli.
Paradise Pickles and Preserves. It lay between the house and the river. They used to make pickles. Squashes, jams, curry powders, and canned pineapples. And banana jam, illegally, after the FPO, Food Products Organization, banned it because according to the specifications, it was neither jam nor jelly. Too thin for jelly and too thick for jam. An ambiguous, unclassifiable consistency, they said, as per their books. Looking back now, to Rahel, it seemed as though this difficulty that their family had with classification ran much deeper than the jam-jelly question. Perhaps Amu, Esther and she were the worst transgressors. But it wasn't just them, it was the others too. They all broke the rules. They all crossed into forbidden territory. They all tampered with the laws that laid down who should be loved and how. And how much. The laws that make grandmothers grandmothers, uncles uncles, mothers mothers, cousins cousins, jam jam, and jelly jelly.
Conserve et condiments Paradise. Entre la maison et le fleuve. Dans le temps, on y faisait des condiments, des sirops, des poudres de curry et des conserves d'ananas. Et de la confiture de banane, illégale, puisque l'IPA, Inspection des produits alimentaires, en avait interdit la fabrication. Selon ces normes, ce n'était ni de la confiture, ni de la gelée. Trop liquide pour de la gelée, trop épaisse pour de la confiture. Consistance ambiguë, donc inclassable, avait-elle décrété. C'était le règlement. À y regarder de plus près, Rahel avait l'impression que les difficultés qu'avait toujours éprouvées la famille face à la notion de classification allaient bien au-delà du simple distinguo confiture gelée. Peut-être bien que les pires contrevenants, c'était Amou, Esta et elle-même. Mais ils n'étaient pas seuls en cause, les autres étaient également concernés. Tous avaient enfreint les règles. Tous avaient pénétré dans des territoires interdits. Tous avaient essayé de tourner les lois qui décidaient qui devait être aimé et comment. Et jusqu'à quel point. Les lois qui font d'une grand-mère une grand-mère, d'un oncle un oncle, d'une mère, une mère, d'un cousin, un cousin, d'une confiture, une confiture. Alors, nous sommes cinq autour de la table, donc il manque Viviana, mais on a d'autres invités, donc Jérémy, le poète, et Florence, une amie de Willem, qui est invitée et qui assiste en public à l'enregistrement. Donc c'est pas... Enfin, c'est pas du luxe parce que je sais pas si on a trop de choses à dire sur la confiture en général. Mais je vous propose de partir sur la perspective du texte, donc l'idée de transgression, passer au-delà des limites, donc qui est important dans l'intrigue. Le frère jumeau de Raël a subi un abus sexuel étant enfant. Et il y a une scène où il mélange la confiture de banane illégale que la famille fabrique. Et il prend la résolution de vivre en gros dans la méfiance constante. Il va essayer de s'enfuir avec sa sœur jumelle. Et c'est ça qui va précipiter la mort de leur cousine. Et du coup, il mélange son secret à la confiture de banane. Et c'est comme si le secret était conservé. Il y a aussi une histoire d'amour entre castes. Et c'est ça qui fait le grand scandale. Donc l'idée de transgression des barrières. Est-ce que vous avez des idées ? Par rapport à la confiture, bien sûr, de préférence.
Pas par rapport à la confiture techniquement, mais par rapport à la déconfite, dans le sérieux d'Arnaud. Justement, dans l'idée de transgression, il y a aussi ça. Le fait est que Pietro di Vaio, c'est un écrivain qui aurait vécu entre le 18e et le 19e siècle, et qui justement appartient à un cénacle un peu romantique, etc. Et qui, dans ses pérégrinations à travers Rome, découvre un jour une auberge très rabelaisienne, justement, où il trouve un renouveau de la littérature, puisque c'est une littérature très joyeuse. Ce cénacle romantique est très oppressant, avec l'idée de travailler la douleur, la souffrance, etc. Et justement, dans cette auberge, ça l'amène à transgresser cette idée de la littérature qu'il a, puisqu'il veut écrire une littérature très joyeuse, très exubérante, et ce qui entraîne un peu l'idée de la déconfite du sérieux, justement.
Le public a dit « c'est cool ».
Moi, je n'assume pas.
Non, c'est vrai. Avant qu'on passe à notre poète, moi, je voulais juste dire que je trouve que ce qui est transgressif, c'est de faire porter des motifs narratifs et romanesques aussi dramatiques sur un objet comme la confiture. Donc, tu as dit toi-même qu'au début, tu as évoqué l'enfance. C'est du pur sucre, c'est limite, c'en est écœurant, ça pourrait être la mièvrerie. Et là, dans l'enfance, c'est un espèce de médicament, donc quelque chose qui est mauvais, qui se retrouve caché sous le sucre. Dans ton texte à toi, tu dis oui, donc c'est cette espèce de secret qui se trouve mêlé à la confiture. Et donc, finalement, ça devient le support de choses assez dramatiques et assez sérieuses. Et je crois que c'est ça qui peut-être est à la fois déroutant et à la fois intéressant dans les textes que tu as lus.
Dans les virgules, il y avait un peu l'idée, les boîtes de conserve, société de consommation, ça limite les gens, mettre en boîte, des choses comme ça. Confiture, on pense plus innocence, plaisir, tout ça. Et peut-être que justement, dans certains textes, on a un renversement de ce point de vue, puisque le mot en conserve, bon, c'est un petit peu étrange, mais c'est quand même une espèce de conte de fées.
C'est la cigogne, quoi.
Voilà, c'est la cigogne, donc ça devient l'enfance, alors que la confiture, ça peut être la confiture d'opium, ça peut être une confiture illégale liée à tout plein de choses très très glauques dans un bouquin anglais. C'est peut-être un renversement dans le corpus qu'on a réuni.
La virgule, Vincent Delerme te disait aussi que cette espèce de nostalgie de l'enfance pleine de mièvrerie et de confiture, ça pouvait être dissimuler des choses un peu plus réactionnaires et un peu moins idylliques, on va dire.
Maréchal, nous voilà, oui, c'est sûr.
En fait, c'est assez triste parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent se contenter d'écrire un truc gentil et mignon. En fait, il faut toujours qu'il y ait un truc dégueulasse derrière. C'est triste.
C'est que gentil et mignon, c'est pas forcément hyper intéressant.
Non, mais la force, c'est justement de faire d'un truc gentil et mignon quelque chose de salace.
Ouais.
Pire. C'est ça la force.
Oui, pourquoi il n'y a pas d'auteur qui prend un truc de salace pour faire un truc gentil et mignon derrière, caché ?
Défi. Défi.
C'est plus dur.
Très bonne question posée par Jérémy et Will.
Oui. Peut-être on peut parler du poème que tu as écrit ?
Oui, que voulez-vous savoir ?
Le public a une question.
En fait, moi, je croyais que tu avais préparé le poème pour l'émission. Et en fait, pas du tout. Tu as eu l'idée comme ça, spontanée, d'écrire sur la confiture.
Oui, en fait, j'étais à une journée d'études sur Paul Éluard. Et il y a quelques conférenciers qui étaient moins intéressants que d'autres. Et donc, je m'ennuyais. Et au lieu de prendre des notes, je pensais à ce que j'allais manger le matin, confiture. Bon, c'était pas la fraise, mais... Et puis, je sais pas, j'ai eu l'idée d'une fraise. Et puis, je suis parti là-dessus.
J'en profite pour signaler que si vous voulez retrouver ce poème, vous pouvez aller sur la page du Gazetarium, le journal littéraire du Literarium, pour retrouver ce poème avec des petits commentaires qui ont été dits pendant la veillée poétique.
C'était la page pub.
Société de consommation de merde.
Je me demandais quand même pourquoi penser direct confiture égale confiture de fraise. Parce que t'es pas le seul là, dans le corpus, on est quand même beaucoup confiture égale fraise.
En fait, quand j'ai écrit, donc j'avais dit, je pensais à la confiture, j'avais pas mangé de la confiture de fraise, mais quand j'ai écrit, le premier mot qui m'est venu, c'est fraise en fait. Alors même de l'idée de confiture, c'était la fraise. Mon poème commence par une fraise cueillie sur un arbre, et ce qui n'est pas forcément très très logique d'ailleurs. Mais
on ne voulait pas en parler, mais
pas rendu compte.
Non, mais c'est vrai qu'à la première lecture, enfin les gens se rendent pas forcément compte. Ils trouvent que ça passe normal, mais en fait un fraisier c'est quand même pas en l'air en fait. Et puis c'est pas un arbre non plus. Et c'est après que je suis arrivé à la confiture.
Je pense que c'est juste un cliché, un peu comme des images d'épinal qu'on peut avoir. Ouais. Je sais pas, tu penses quand on dit pense à un fruit, tu penses à je sais pas une pomme, c'est un peu l'archétype, mais. Tu penses confiture,
c'est vrai
tu penses
que la confiture de fraise, c'est un peu plus sexy que la confiture de rhubarbe. Mais bon, après,
je suis contre cette idée.
C'est une fraise en jardin d'Éden. Hein. C'est plus sexy, effectivement, qu'une pomme en soi.
Et donc, nous espérons, cher auditeur, d'avoir alléché avec nos lectures pleines de confiture, quelle rime, et d'avoir donné envie d'ouvrir quelques bocals dans ton frigo.
une virgule d'extrait de La Banane aurait été plus adaptée à la fameuse confiture illégale. Mais honnêtement, personne ne veut s'imaginer Philippe Catherine tout nu sur la plage. À la place, donc, du rock grunge, justifié par un jeu de mots un peu limite, Even Flow et du groupe Pearl Jam. Jam, confiture. Voilà, la réserve de confiture de larmes est épuisée et le temps de cette émission l'est également. Je le répète, plomber votre goûter n'était pas le but recherché, plutôt un dommage collatéral. Et si vous regardez à présent la confiture et conserve d'un autre œil, ma foi, ce sera une victoire, mais aussi une défaite. Consolez-vous donc à force de littérature, fourrez le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright, Camille. Le choix des lectures a été fait par votre équipe de lecteurs réduit à un triste trio. Et côté virgule, béni soit Robin et ses obscurs pouvoirs de connaissance de la chanson française, qui est venu à notre rescousse. Merci bien sûr d'être toujours présent derrière ta table de mixage. Le t-shirt du jour, donc une machine à laver et... au-dessus, une bulle qui dit « Where is the cat ?» Point d'interrogation. Où est le chat, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et là, tu te rends compte qu'il y a une petite bulle de pensée à côté de la machine à laver qui dit « Miaou ». Donc, un chat en conserve. C'est dégueulasse. Et merci aussi à notre public improvisé, Jérémy et Florence. Rendez-vous au 8e épisode, normalement dans 2 semaines, normalement sur le cinéma et normalement à nouveau en quatuor. Toucher du bois et conjurer la malédiction. Pour finir sur une touche plus légère, la toute fin du texte de Nox, lu par Camille, et avant... Pierre Perret, le représentant en confiture. Longue vie à Transistor.
Je suis représentant en confiture et j'ai toujours des semaines très dures. Quand je suis en difficile posture, parfois le mari surgit et vlan, ma commande est annulée. Un ami m'a dit la confiture, pour vous ça n'est pas une sinécure.
Ainsi que vous pouvez le constater, il est absolument évident, tant d'un point de vue réflexif qu'expérimental, que la confiture de fraises n'est qu'une invention. Ne nous laissons plus guider par le complot, la supercherie, que représente la confiture de fraises. Réfléchissons par nous-mêmes et répondons la vérité. La confiture de fraises est un mythe et n'a jamais existé. Toute ressemblance avec les raisonnements tenus par les créationnistes racontant la théorie de l'évolution serait plus qu'une amusante coïncidence. Clin d'œil.